Radio JV présente chaque lundi dès 21h, Inks et ses complices débarquent pour vous parler jeux vidéo. Dossier, interview, chronique, rétrospective, quiz. Durant une heure, tout est possible. Accrochez-vous, le Player Club est ouvert.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans cette 23e édition du Player Club. Nous sommes le lundi 23 février 2015. Ce soir, nous allons faire une petite rétrospective Monster Hunter jusqu'à l'épisode 4 Ultimate, sorti sur 3DS et New 3DS tout récemment, avec Mutui. Bonsoir.
Bonsoir, très content d'être là.
Tu nous viens de pixelspray.fr ?
En effet, tout à fait, oui, je compte revenir sur pixelspray maintenant que j'ai changé de logement, tout va bien.
Mais bien sûr, et puis on te suit sur Twitter, @mutsui avec 2i.
3i.
3i, mon dieu, on se limite pas sur ce compte-là, fantastique. Et avec nous, il y a Jay, bonsoir.
Salut.
Alors Jay, évidemment, on t'entend chaque mois dans les tauliers, une autre émission Radio JV, mais il faut le dire, tu travailles aussi dans l'industrie du jeu vidéo.
C'est cela même.
Et nous allons donc parler ce soir de Monster Hunter, des premiers épisodes jusqu'à celui sorti donc il y a quelques jours. Ça va durer plus de 50 minutes et c'est dans le Player Club.
De 21h à 22h, le Player Club.
Et donc, Monster Hunter, une série assez à succès, on peut le dire, hein, à succès notamment au Japon, mais elle nous parvient aussi chez nous en Occident depuis quelques années maintenant. Toutefois, c'est une série qui paraît un peu imprenable pour beaucoup de joueurs. C'est une sorte de RPG, action RPG, dans lequel on va poursuivre des monstres dans des grandes étendues. C'est ce qu'on voit dans les trailers, c'est ce que la plupart des gens comprennent quand on leur dit le mot Monster Hunter, les mots Monster Hunter, on leur parle de la série Monster Hunter. Toutefois, bah voilà, au niveau gameplay, le message n'est pas forcément tout le temps passé. Qu'est-ce qui se passe dans Monster Hunter? On joue à quoi? On fait des quêtes? Est-ce qu'on fait que poursuivre des monstres? Est-ce qu'il se passe autre chose quand même dans ce genre de jeu? Mutui, si tu veux commencer.
Commencer par d'abord Jay.
Tu veux commencer par Jay? Ah, oui. Bien, okay,
allez,
d'accord.
Je laisse le roman,
carte Jay. Allons-y.
Vas-y, carte Jay.
Alors, Monster, à la base, ça s'inspire quand même pas mal de Phantasy Star Online, hein, il faut mm-hmm. le dire, c'est quand même mm-hmm. la base du truc, à savoir un hub où tu fais tes achats, etc. Et ensuite, tu pars dans des zones pour affronter des monstres, sauf que dans Phantasy Star Online, t'avais donc un boss à la fin d'un niveau construit par différentes salles, etc., où t'affrontais des monstres. Et t'arrivais, tu butais le boss, et ensuite ça te permettait d'obtenir de l'argent, des nouvelles techniques, etc. On était vraiment dans un concept RPG. Monster, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un hub où tu vas pouvoir gérer un petit peu la vie de ton chasseur, et ensuite tu pars en mission, puisqu'on te file mm-hmm. des quêtes, et bah t'as un objectif de quête, et c'est hyper divers, hein. Ça peut être de aller pêcher tel poisson, à découvrir telle race de monstre, à choper des œufs de tel monstre, etc. Ou évidemment les chasses. Donc les chasses, ça peut être des petits monstres ou ça peut être des gros monstres. Donc des boss entre guillemets. La seule différence, donc, c'est que les boss se déplacent sur toute la zone. Donc t'as un environnement qui est découpé en de multiples petites zones et en fait le boss se déplace. Et à ses habitudes, à son régime alimentaire, etc. Voilà, donc en gros, tu te retrouves un peu dans la vraie peau d'un chasseur, avec le fait de devoir chasser un monstre, pardon, mm-hmm. qui t'amène ensuite à le dépecer, récupérer des matières premières. Ces matières premières te permettent ensuite de construire des pièces d'équipement ou des nouvelles armes en fonction de certaines denrées ou morceaux de monstres, en fait, enfin des griffes, des cornes, etc. Et en fonction de ça, tu vas te créer une armure et ça va te permettre de devenir plus fort. C'est-à-dire la force, l'expérience entre guillemets dans ce jeu est basée sur ta manière d'entrevoir le jeu et de gérer ton équipement. Donc à la fois les options, donc t'as des items aussi qui te permettent de marquer les monstres, de pouvoir les piéger, de pouvoir les endormir, etc. Et en fait tu dois apprendre à maîtriser toutes les règles à la fois de l'environnement, parce que tu apprends justement à te repérer dans les lieux, à repérer tel régime alimentaire pour tel monstre, etc. Mmh. Donc tu vas poser des pièges à l'endroit où il va aller pour pouvoir éventuellement chercher son garde-manger, etc. Donc t'as tout un tas de trucs à comprendre, mais c'est pas un jeu ultra bourrin, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est un jeu qui se réfléchit et c'est vraiment basé sur... c'est vraiment un jeu de stratégie pour moi. Mmh. Où tu dois vraiment observer. La première des règles, c'est observer. Ensuite, tu dois te former ton équipement. Et ensuite, tu dois repérer le monstre, le poursuivre et le combattre.
Et là... C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'il y a des quêtes de cueillette, des trucs comme ça. Le jeu te force, comment dire, à justement observer, à t'impliquer dans le milieu avant d'aller forcément chasser des monstres, les tuer, les capturer, etc.
Oui, voilà, exactement, c'est ça. C'est que au tout départ, les missions sont complètement nazes. D'ailleurs, il y a énormément de joueurs de Monster Hunter qui pensent que le jeu commence vraiment à partir du moment où tu commences à avoir les 4G entre guillemets. Donc c'est des quêtes plus qui demande
le rang sup,
le rang supérieur, qui demande de l'expérience, qui demande une pleine maîtrise du jeu et qui généralement aboutissent à jouer à plusieurs, parce que la vraie force de Monster Hunter, c'est quand même de jouer jusqu'à 4 en même temps, quoi.
C'est clair que sur les premiers épisodes, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement concentré. Ensuite, depuis justement, on va dire, la génération 3, on reviendra sur le principe de génération dans un instant, mais depuis les épisodes dont le chiffre est 3 ou tri à l'intérieur, le mode solo a été beaucoup plus développé, beaucoup plus mis en avant par, on le rappelle, c'est Capcom qui fait Monster Hunter.
Alors il faut savoir un truc, c'est que Monster Hunter, à la base, d'accord, c'est la première proposition avec Resident Evil Outbreak de Capcom en online. C'est-à-dire que le jeu était conçu à la base pour être joué online. Mmh. Ça répondait à une demande.
Sur
de
PlayStation
la part de
2, on rappelle. Hein.
Exactement, sur PlayStation 2, parce que ça date de 2004.
Il n'y avait pas énormément de gens sur, on va dire, tout le parc installé qui étaient au courant que la console pouvait faire du online, mais elle pouvait le faire. Il y avait moyen de brancher un câble téléphonique derrière.
Entre le parc console, et le parc qui avait aussi du coup le modem et oui. Le parc qui a le jeu, voilà, ça fait très minorité. Hein.
Donc c'est aussi ce qui explique que pendant assez longtemps, en fait, on est resté un peu à l'extérieur de tout ça, parce que le online sur PlayStation 2 a pas vraiment franchi le Japon, quoi. Il y a eu évidemment mais en tout cas, ça n'a pas vraiment franchi le Japon, ou en tout cas, c'est pas arrivé chez nous. C'est-à-dire, on n'a pas pris l'habitude de jouer en online sur une console de jeux vidéo salon avec la PlayStation 2, c'est ça que je veux dire. Donc c'est aussi pour ça que quelque part Monster pendant longtemps c'est resté assez confidentiel, on va dire, en Europe.
Alors justement, ça tombe très bien que tu commences à parler des territoires, parce que ma seconde question s'attaque justement au succès au Japon. Pour le coup, Monster Hunter est une série phénoménale là-bas, il faut le dire, mais juste pour qu'on comprenne, déjà à quel point est-ce que c'est le cas depuis le premier épisode?
Bah vas-y, j'ai déjà pas mal parlé, donc vas-y Mitsui,
pour le coup, si tu surveilles
alors,
un peu
concernant le succès au Japon, je sais que ça a vraiment beaucoup explosé, donc le 1 et 2 ça avait été pas mal, mais c'est surtout sur PSP que ça a vraiment explosé, mais comme on n'a pas jamais fait. C'était vraiment notamment le 2G ou Freedom Unite qu'on a. Mm-hmm. Et principalement, c'est vraiment la série de jeux qui au Japon a nourri la PSP, a nourri vraiment le public, les possesseurs de PSP. Portable 3, je crois que c'est l'épisode le plus vendu, c'est le jeu le plus vendu sur PSP pas le jeu le plus vendu de la série, mais il était très 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 bien vendu.
Donc pour le coup, ça continue d'accentuer l'idée que faire un jeu online sur PlayStation 2, c'était vraiment pas forcément une bonne idée, et que le côté plutôt partage avec ses amis, on va se rencontrer quelque part chez un pote ou dans un lieu public pour pouvoir jouer à Monster Hunter ensemble, était une clairement meilleure stratégie pour un jeu comme ça qui se base vraiment purement sur le multi.
Ouais, mais c'est ça qui est drôle, c'est-à-dire qu'à la base c'était quand même prévu pour être un jeu online, et c'est par la force des choses, on va dire, mais justement par la PSP, que le jeu a acquis une vraie réputation et est devenu un véritable phénomène au Japon. Donc la base c'était conçu pour le online, et finalement c'est local, c'est-à-dire c'est le jeu lui-même et les joueurs qui ont transformé le concept de base. C'est quand même assez intéressant.
Alors, surtout... oui, vas-y.
Et aussi, surtout aussi que faut voir ça aussi avec la façon de consommer qu'ont les Japonais à ce moment-là. C'était déjà ça, la console de salon commençait un tout petit peu sur le déclin, vraiment beaucoup plus sur le nomade. La densité de population est beaucoup plus forte au Japon. Du coup, ils sortent beaucoup plus facilement, ils rencontrent des gens beaucoup plus facilement. Donc, le côté nomade a beaucoup servi à Monster Hunter. Du coup, au niveau du gameplay local, multi-local, c'est ce qui, du coup, le passage nomade à la PSP, c'est ce qui a vraiment grandement servi à la série. Voilà, oui, tout à fait.
Deux tweets, une réaction, Segarera qui nous dit « Pas mal de gens considèrent Monster Hunter comme un MMO alors qu'il ne fait que reprendre certains codes du genre. » On rappelle, on ne joue que à 4 maximum. Et The Cat qui demande « Il faut quand même passer beaucoup de temps, s'investir énormément dans le jeu, non ?»
Ça, c'est vrai. Ouais. C'est un jeu, c'est hyper chronophage, quoi. Mais j'ai envie de te dire, si jamais t'as l'habitude de passer du temps sur Diablo, tu vas te retrouver un petit peu dans Monster, parce que c'est un peu les mêmes principes, c'est-à-dire se baser sur le loot quand même la plupart du temps.
Même encore plus pour le coup, il y a même pas de level up dans Monster.
Non, il y a pas de level up.
Le leveling est constant, ouais. Tout à fait, le leveling est constant.
Le truc vraiment intéressant de Monster, c'est que comme je te disais tout à l'heure, une expérience n'est quantifiée que par ta connaissance de l'univers, des codes de l'univers, des codes des monstres, etc., etc. C'est-à-dire, c'est toi qui gagne en expérience, et c'est grâce à ton équipement que tu peux leur faire face. Mais tu gagnes pas des points d'expérience qui te rendent plus fort. Tu deviens plus fort parce que tu manies mieux les armes, parce que tu sais mieux piéger les monstres, etc.
On parle à la connaissance, knowledge is power, très bien, reprenons ces slogans anglophones. On va directement passer à la première génération, puisque oui, Monster Hunter, c'est différentes générations, donc on retrouve ça très facilement, parce qu'on a par exemple, pour vous donner, on a Monster Hunter 2, puis ensuite on a Monster Hunter Freedom 2, puis ensuite Monster Hunter Freedom Unit, qui sont toutes des déclinaisons de Monster Hunter 2. Donc, pour la première génération, qui elle est sortie en 2004, avec le premier épisode sur PlayStation 2, donc Monster Hunter, puis son extension d'ailleurs sur PlayStation 2 et sur Wii Monster Hunter G, puis encore sa déclinaison portable Monster Hunter Freedom. Globalement, dans ces titres-là, dans cette première génération de Monster Hunter, on retrouve le concept de base, on retrouve ce qui a fait le grand départ de Monster Hunter. Qu'est-ce que vous avez à dire vraiment sur cette première génération? En quoi est-ce qu'elle est remarquable? En quoi est-ce que il manque des choses qui seront corrigées ensuite? Comment on va considérer cette première génération de jet?
Écoute, le tout premier pose les bases, hein, donc c'est exactement le même jeu que maintenant, sauf, le 4 a vachement évolué, mais en tout cas c'est le même jeu que maintenant, c'est le même principe de base. La seule différence, c'est que y a un truc qui s'appelle les subspecies, donc les différentes sous-races de monstres, si tu préfères, qui sont apparues avec le 1G, justement, parce que à la base, c'était un add-on, et Capcom n'a jamais cessé, en fait, à reproduire ce qu'ils ont tout le temps fait avec tous leurs jeux, avec leurs Resident, avec leurs Street Fighter, avec leurs Mega Man, c'est-à-dire des suites et des suites et des add-ons et des add-ons, et voilà, et que, en grosso merdo, ils ont appliqué la stratégie Street Fighter 2 Turbo, Prime, Super Turbo, machin truc, à Monster Hunter, quoi. Et à chaque fois, ils rajoutent quelques monstres, ils rajoutent éventuellement une arme ou deux, ils rajoutent un environnement, voilà. Et c'est comme ça que ça a permis à Capcom, en tout cas, Monster Hunter est le plus gros succès de Capcom à l'heure actuelle.
Donc c'est cette pression, c'est le fait de relancer à chaque fois, quasiment tous les 6 mois finalement, d'un épisode, pour en tout cas dans la petite période entre 2004 et 2005, en ce qui concerne la première génération, qui a fait une partie du succès, c'est l'insistance de Capcom.
Ouais, mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que si jamais tu rajoutes des subspecies, forcément tu rajoutes des nouvelles armures, et comme ça repose quand même beaucoup sur la collectionnite aiguë Monster Hunter, le fait d'avoir une armure super classe que tu peux pas avoir dans la version précédente, ça te pousse à acheter la donne. En tout cas, au Japon, c'est comme ça que ça se passe.
Donc, le phénomène où Monster Hunter sort en 2004 sur PS2, puis Monster Hunter G avec quelques monstres en plus sort en 2005 sur cette même PlayStation 2, c'est la même chose que quand, par exemple, Nintendo et Game Freak sortent Pokémon bleu et rouge, puis quelques années plus tard sortent Pokémon jaune de manière complémentaire. C'est relativement, en termes commerciaux, en termes marketing, c'est relativement le même principe qu'il y a derrière, finalement.
voilà, Pokémon et Monster Hunter se placent assez dans les mêmes sphères, ouais, tout à fait. D'ailleurs, les joueurs de Pokémon jouent à Monster Hunter, ou inversement, généralement, les gros fans de Pokémon jouent beaucoup aussi à Monster Hunter. Les deux communautés sont pas très loin non plus, tu vois.
Ce qui est très intéressant, c'est que c'est deux types de jeux complètement différents. C'est-à-dire que Pokémon, je peux quasiment y jouer en déconnectant mon cerveau, en me disant, bon, je reconnais plus ou moins le type des Pokémon au fur et à mesure que je les combats, donc je sais quelles attaques faire et je peux tout à fait écouter un podcast ou faire autre chose à côté. Je me rends bien compte que malgré tout,
tu vas te faire shooter si tu dis ça, hein, parce que
non, pas au niveau compétitif, mais je parle de l'aventure principale. Si je joue vraiment l'aventure principale, je peux tout à fait. Et si mon plaisir c'est de jouer à Pokémon pour l'aventure principale, je peux tout à fait le faire en même temps que j'écoute autre chose à côté, qu'on me parle, etc. Pour autant, ça m'étonnerait vraiment que ce soit la même chose pour Monster Hunter, à part pour un joueur qui a vraiment beaucoup d'habitude et des centaines d'heures dans les pattes. Ça me paraît être un jeu justement qui est excessivement plus compliqué, qui est excessivement plus stratégique dans la dimension où, voilà, on n'est pas au tour par tour, le monstre il bouge tout le temps, et même il s'enfuit, il fout le camp, c'est ça qui surprend le joueur la première fois d'ailleurs, c'est que, il reste pas là le monstre.
Ouais, les premières fois, et puis il y a un truc très important qu'on oubliait de dire, c'est que pour les gens qui connaissent pas du tout Monster Hunter, on n'est pas dans le cadre d'un affrontement de boss à pattern, c'est-à-dire que le monstre s'adapte complètement et chaque combat est différent. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on va rencontrer ce même monstre, évidemment c'est le même monstre qu'on affronte, mais les situations vont être différentes. Donc il va s'enfuir à un moment, alors que la partie d'avant, si jamais tu te fais torcher, il s'est pas enfui par exemple, ou alors il va dans telle zone alors qu'il aura pas été dans telle zone à un autre moment. Donc du coup à chaque fois t'as l'impression de vivre un nouveau combat. Toujours contre les mêmes monstres, mais t'as toujours l'impression d'être confronté au jeu. Le jeu se confronte constamment à toi. Donc, ce qui fait que non seulement t'as de l'implication temporelle, c'est très chronophage comme je disais tout à l'heure, mais en plus, à chaque fois que tu rencontres un monstre, même si tu le connais bien, t'es quand même obligé de l'aborder de t'adapter à la situation sur le moment même, quoi. Donc c'est ça qui rend ce jeu complètement passionnant et qui fait que tu te lasses pas et que t'as pas l'impression de toujours jouer au même jeu. Tu comprends ce que je veux dire ?
Tout à fait. Pour le coup, Mutsui, je vais te poser une question de Nathan sur Twitter qui réagit au hashtag le Player Club et qui pose une question fondamentale pour toutes les personnes qui n'ont jamais joué à Monster Hunter. Est-ce qu'il y a une fin ? Est-ce qu'il y a il y a un mode histoire, il y a un mode solo, histoire, je mets des guillemets autour. Est-ce qu'il y a une fin dans Monster Hunter ? Est-ce qu'on tue le plus grand monstre et ensuite apparaissent les crédits ? Comment ça se passe de ce côté-là, Mutsui ?
Alors, c'est vraiment le solo, le solo qui m'a le plus marqué, c'était vraiment le tri quand je l'avais fait sur Wii. Mm-hmm. C'était... il y avait vraiment un côté plus cinématique en plus que je n'avais jamais eu dans le PSP. Et vraiment, il y avait vraiment une implication qui était beaucoup plus demandée dans le tri, notamment dans le tri. Donc du coup, je présente un peu le plot du début. On arrive dans le village Moga, qui est un port de pêche assez connu, reconnu dans le monde de Monster Hunter.
Le hub classique dont j'ai parlé tout à l'heure.
Exactement, le hub classique dans le solo, oui, c'est le village Moga. Dans le multi, c'est la grande salle, mais ça va être autre chose. Du coup, le village Moga, du coup, tu fais partie du, on te dit, voilà, maintenant tu fais partie du village. Tiens, voilà ta maison. Tiens, là, il y a le magasin.
C'est Animal Crossing, voyons. Voilà un crédit de 10 000 pièces, oh là là.
C'est presque ça, ouais. Tiens, tu regarderas dans le coffre, c'est un stuff de départ pour toi. Des trucs comme ça, il y a le magasin.
Non, mais
ce qui est intéressant
dans le tri, justement, c'est le fait de faire, en gros, ils sont emmerdés par un monstre terrible dans la flotte, puisque c'est l'élément qui a été rajouté, c'était vraiment l'eau. C'est-à-dire, tu pouvais nager, etc. D'ailleurs, ça a posé beaucoup de problèmes à beaucoup de personnes en termes de jouabilité. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont pas reconduit l'histoire, même dans le Ultimate. Mais l'idée, c'est de pouvoir faire redémarrer ce village. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu vas buter les monstres qui sont autour et qui les empêchent de commercer, etc., t'as des bateaux qui vont revenir. Après, il faut que tu contrôles le commerce du village en envoyant pour aller chercher des poissons je ne sais où, faire du commerce avec d'autres îles que tu verras jamais, etc. Voilà. Ouais. L'idée, c'est de faire redémarrer la vie du village, justement, parce qu'il y a un monstre qui les fait chier dans le coin, quoi, en gros.
Oui, et au départ, on te dit, ah bah tiens, je crois que c'est le Legacrus là-bas. Et non.
Alors, très bien. Donc ça, c'était vraiment spécifique à Monster Hunter 3, cette histoire du village qu'on va peu à peu sauver. J'imagine que quand on arrive au bout et qu'on l'a vraiment complètement réparé, les crédits arrivent et c'est la fin du jeu. C'est le cas aussi dans les autres. C'est simplement vraiment juste une liste des tâches là pour le coup des monstres à buter, à choper ou des matériaux à aller choper.
Sur le 4, c'est la première fois qu'il y a une vraie narration, mais on y reviendra tout à l'heure.
On y reviendra plus tard dans ce cas-là.
Ouais.
Effectivement. Très bien. Une petite réaction, je la prends au passage de Kyle Easton qui nous dit Monster Hunter devrait quand même faire une collaboration avec Jurassic World, comme ça on éviterait un jeu à licence. C'est une idée à creuser. Avançons rapidement sur la génération 2 pour le coup, celle qui commence à se faire un petit peu connaître. Monster Hunter 2, ça sort en 2006 sur PlayStation 2, c'est une exclusivité japonaise. Il va avoir une déclinaison portable, donc Monster Hunter Freedom 2 sur PSP en 2007, et une extension de cette adaptation portable qui va s'appeler Monster Hunter Freedom Unite, toujours sur PSP, l'année d'après, en 2008. Là aussi, on a quoi? Des monstres en plus, on a des armes en plus, et ça bouge pas autant.
Alors,
sur la génération 2.
Entre Monster Hunter 1 et Monster Hunter 2, il y a quand même une bonne grosse évolution, quoi.
Mm-hmm.
Déjà graphique, ensuite au niveau des monstres, ensuite au niveau des armes, enfin c'est une vraie évolution. Le premier vrai Monster Hunter, au final, ça reste quand même le 2 pour moi, hein, en l'occurrence. Et quand tu dis Freedom, ce sont les noms occidentalisés. Le vrai nom, c'est Portable. On le dit pour les gens parce que qui ne fassent pas la confusion. Grosso modo, Portable Seconde, c'est Freedom 2 dans le reste du monde, et Freedom Unit, c'est le Portable Seconde G, parce que cette notion de G, en fait, est cette fameuse notion d'add-on dont je parlais tout à l'heure.
Voilà, qui se recoupe sur le principe des missions G dans le jeu, qui sont les missions les plus difficiles, les plus intéressantes. Donc ils essaient de tirer un petit peu sur ce thème-là de manière générale dans la convention titrée au Japon en tout cas.
Oui, voilà, puis ils rajoutent des monstres tutélaires parce que chaque épisode a un monstre tutélaire. Le tout premier d'ailleurs, c'était Rathalos par exemple, qui est un dragon rouge qui est hyper connu de tous les fans de Monster Hunter. C'est vraiment le monstre emblématique. Par exemple, sur le portable Seconde G, donc le Freedom Unit, c'était, il me semble, Nargar Kuga, donc il y a une espèce de panthère dragon, enfin tu sais pas trop ce que c'est un truc qui
est un jaguar, Mathieu, ouais.
Un jaguar, voilà, exactement.
Alors, je vais poser une question barbare, je connais déjà très probablement la réponse, mais je la pose quand même parce que les auditeurs peuvent à leur tour se la poser. Monster Hunter Freedom Unit, donc Seconde G au Japon, est sorti sur iOS. voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose à sauver? Est-ce que vous avez pu mettre les mains dessus? Est-ce que c'est une mauvaise idée?
Tu sais très bien que je ne touche pas au jeu sur un téléphone portable, donc non.
Donc
je ne sais pas.
Pour le coup, MTX, que ce soit sur tablette ou sur téléphone, est-ce que t'as pu mettre la main dessus?
Pas le Freedom Unite, mais un autre qui était à côté, qui était disponible sur la plateforme gris. C'était le...
Oula. La plateforme gris, il faut rappeler, hein, c'est une plateforme donc liée à des smartphones typiquement japonaises, se faire...
Ouais, exactement ça, et c'est disponible aussi sur le Play Store européen.
Donc
la plateforme
sur
gris.
Play Store, c'est Google.
Oui, tout à fait. Google Play Store, oui,
très
tout
bien.
À fait.
Okay.
Voilà.
Et juste qu'on précise pour ceux qui sont pas très tech savvy dans nos, enfin qui sont pas très spécialistes tech dans nos auditeurs.
Et du coup, sur cette plateforme-là, il y a eu deux opus, dont un uniquement au Japon. Par contre, je sais plus lesquels sont exactement. Mm-hmm. Il y avait Monster Hunter Dynamic Hunting, et le deuxième, c'était Monster Hunter Massive Hunting aussi. C'était deux spin-offs mobiles,
oui,
assez chelous. C'est assez très brouillon.
Voilà. Très brouillon, d'accord. Donc, pas trop d'intérêt à se pencher dessus.
Non.
Ce qui est labellisé Monster Hunter n'est pas nécessairement intéressant. Nous avançons dans ce cas-là avec la troisième génération, qui pour le coup fait vraiment une distinction très claire entre les épisodes de salon et les épisodes portables. Parce qu'il y a un épisode portable dans la troisième génération qui se démarque de son comparse de salon. Donc d'abord, on a Monster Hunter 3 en 2009 sur Wii. Là, la série apparaît sur Nintendo, on reparlera de ce transfert d'ici quelques minutes. Et puis, sa suite exclusive au Japon et dans, on va dire, son décorum, dans, oui, surtout sur le décor et sur le style très, je vais utiliser le terme d'asiatique pour pas dire autre chose, mais voilà, qui change un peu de, d'univers malgré tout.
Ah bah c'est japonais, hein, tu peux le dire.
Qui est très japonais même, comment dire, qui se démarque très clairement justement de l'épisode Wii, qui lui est sorti sur PlayStation Portable, puis qui a eu une adaptation sur PlayStation 3. Donc, alors, d'abord pour Monster Hunter 3, on parlait du village tout à l'heure, on parlait de l'emphase qui a été mise sur les monstres dans l'eau. Il y a autre chose à retenir sur l'épisode Wii?
Bah déjà que à la toute base il était prévu sur PlayStation 3 quand même, il faut le dire. Il était prévu sur PS3 et il est pas sorti dessus, il est sorti sur Wii pour une question de coût de développement. Enfin ça c'est la raison officielle. Donc après Nintendo a annoncé effectivement qu'il y avait un accord d'exclusivité sur Monster Hunter 3 qui sortirait pas sur une autre console que sur la Wii et effectivement c'est, ça s'est passé. En revanche en 2010 si mes souvenirs sont bons, il est sorti il y a un portable Third qui est sorti qui est jamais sorti ailleurs qui est resté exclusif au Japon et qui est sorti sur PSP parce que sans doute les gens ne voulaient pas passer sur Wii, et même si ça reste un beau succès, puisque ça reste le jeu d'éditeur tiers le plus vendu sur une console, enfin sur Wii, ça reste quand même assez minime par rapport aux ventes de portables seconde ou portables seconde G, puisque on est aux alentours de 3 millions 5 sur PSP grosso modo, puisque le Third a fait plus encore, 4 millions 5 je crois,
presque 5, oui
ouais c'est ça, et le tri ça doit être dans les 1 million tu vois, parce que bah c'est la Wii et que forcément c'était pas une console qui était déterminée pour les gamers. Donc du coup voilà, ils se sont dit il faut quand même qu'on puisse limiter la casse quoi. Donc c'est pour ça qu'il est sorti sur PSP et il a changé d'univers puisque c'est le village japonais de Yukumo qui remplace le Moga et donc l'univers marin a été bâché quoi.
Vas-y. Et aussi du coup pour contrer justement le portage Wii, il y a eu un portage portable Third HD qui est sorti sur PS3 toujours uniquement au Japon, qui proposait tout le jeu sur PSP en 1080 60 FPS et rajoutait du coup aussi la fonction de online qui manquait du coup à la version PSP pour contrer justement le online qui était déjà dans le tri. Et qui d'ailleurs aussi le tri sur l'online, on va peut-être voir ça après.
Très bien. Bah écoute, non, moi je pensais d'abord juste attaquer dans un instant, même maintenant carrément sur pour le coup l'adaptation, enfin la suite du tri sur 3DS et sur Wii U. Donc en 2011 sur 3DS et en 2013 sur Wii U, c'est Monster Hunter 3 Ultimate.
Oui.
Et alors la question que j'ai envie de poser par rapport à ça, c'est qu'il y a un cross-platform entre la 3DS et la Wii U. Ça valait le coup d'avoir les deux jeux?
Quand t'es hardcore fan, ouais, parce que tu joues dans ta maison à une jolie version, parce que Ultimate était quand même relativement joli. Et,
mal porté mais joli.
Ouais, puis le portable était pas mal. Le seul truc, c'est que c'est cette putain de jouabilité. Donc ils ont dû trouver de toute façon un compromis quoi. Ils ont trouvé le compromis de rajouter la croix qui permet de bouger la caméra, parce qu'enfin il faut savoir un truc sur Monster Hunter, c'est que les monstres ne sont pas lockables. Donc il faut toujours bouger la caméra, etc. pour pouvoir. Il faut une vraie dextérité de la caméra quoi. C'est l'une des principales difficultés du jeu d'ailleurs.
Sauf dans le 3 Ultimate où justement ils ont ajouté du coup l'espèce d'autolock où lorsque on activait ça sur l'écran tactile et lorsqu'on appuyait sur le bouton de caméra qui ressemblerait automatiquement en direction du monstre.
Voilà, exactement.
Ces trucs-là étaient pas mal aussi décriés quoi, par les fans hardcore. Oh mon dieu, c'est la casualisation de la série. Ah mon dieu, rendez-vous.
On ne peut plus contrôler la caméra comme on veut. Justement, on peut trop bien contrôler la caméra.
Restons enfin, hardcore, s'il vous plaît. Restons archaïques.
Sauf c'est que ça. cette idée tactile, en fait, était plutôt pas mal parce que ça permettait, enfin, quand tu t'y habitues, au final, ça remplace quand même un stick parce que ça, ça a été le scandale, le grand scandale qui a été vraiment montré du doigt à l'époque par tous les joueurs de PSP qui se sentaient complètement abandonnés, hein, clairement. C'est cette histoire de pas avoir de second stick. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, le fameux dual machin, là, c'est le truc qui se foutait autour de la 3DS.
Le Circle Pad Pro.
Le Circle Pad Pro, merci. A été vendu en bundle avec Resident Evil Révélation. Pourquoi, à ton avis? Parce que ça avait été un coup de pression de Capcom sous prétexte qu'il ne sortirait pas le jeu sur 3DS si jamais il n'y avait pas une autre possibilité de jouer parce qu'ils avaient peur justement de perdre les joueurs PSP. Parce qu'ils se sont dit immédiatement qu'avec ce truc-là, les joueurs PSP allaient suivre.
Et à voir que leur lobbyisme a fini par marcher parce que la nouvelle révision de la 3DS maintenant a une sorte de second stick ou plutôt un second téton qui est intégré directement dans la machine.
La petite merde là.
Oui, exactement.
Et du coup par les anciens jeux c'est considéré justement comme un Circle Pad Pro intégré à la console.
Oui,
du coup voilà.
Au niveau du code c'est complètement dégueulasse. C'est ah oui tu as un Circle Pad Pro. Non je suis sur New 3DS enfin que se passe-t-il là. ce n'est pas du tout subtil. Il n'y a pas de mise à jour. C'est vraiment reconnu tel quel alors que le feeling n'est pas vraiment le même entre justement un Circle Pad Pro et cette petite excroissance sur New 3DS. En petite parenthèse, hein, j'ai fait justement la démo du 4 il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques heures avant l'émission, simplement. Et c'est vrai que j'ai eu simplement le réflexe de baisser ma main droite et d'aller sur l'écran tactile pour jouer la caméra avec la petite croix qui te permet de le faire quand tu n'as pas. Voilà, donc non mais pour le coup, c'est pas pratique, c'est pas du tout ingénieux et c'est un des grands défauts justement d'avoir cette série-là sur une console portable comme la 3DS, mais le geste se fait entre très gros guillemets naturellement, mais voilà, avec réserve. On va passer tout de suite à la quatrième génération du coup de Monster Hunter, avec donc Monster Hunter 4 sorti sur 3DS en 2013 uniquement au Japon. Et maintenant, la sortie internationale de Monster Hunter 4 Ultimate sur 3DS et New 3DS. Donc depuis quelques jours, il est disponible. Quatrième génération, qu'apporte-t-elle? Elle est assez choupie, elle est assez jolie pour justement l'avoir un petit peu tâtée, pour y avoir un petit peu joué. Même sur 3DS, finalement, ça rend pas mal. Mais au-delà de l'aspect graphique, qu'est-ce que vous avez pu en penser? Mutsui, je sais que t'as pas trop discuté jusque-là, justement. Je t'en prie, attaque un petit peu, toi qui tripote le jeu depuis quelques jours.
Oui, du coup j'ai acheté le jeu Day One, j'ai aussi du coup acheté ma New 3DS XL pour l'occasion, j'ai acheté carrément une nouvelle console pour jouer Monster Hunter 4 Ultimate, et justement pour profiter justement du second stick qui répond très bien je trouve, c'est les 5 premières heures c'était assez fastidieux, mais une fois le pli est pris, c'est très 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 bien. Après donc j'ai pu quand même bien testouiller, le jeu est quand même assez sympa, beaucoup plus fluide que sur les 3DS et 3DS XL classiques pour avoir fait la démo sur une 3DS XL. La narration est quand même beaucoup plus poussée. Il y a beaucoup de choses qui sont devenues beaucoup plus visibles, beaucoup plus montrées par Capcom, parce que il y a un truc qui a pas trop été dit là, c'est que il y a énormément de choses à découvrir dans le jeu, mais que Capcom ne dit rien. Rien, absolument rien là-dessus. Genre, qui aurait pu deviner que, par exemple, pour les trucs, on a un petit cochon dans la maison qui a. Je me demande qui c'est le gars qui a découvert qu'en fait lorsqu'on caresse le cochon avant de partir en quête, ça te donnait bien. Si on donne un petit câlin au cochon avant de partir en quête, ça te donne un plus gros loot à la fin de la quête. Qui a découvert ça?
Wow, voilà. Effectivement, parle de cryptique là.
C'est plein de choses comme ça, de petits bonus cachés, de stats cachés aussi. Du coup, il y en a qui parlent de barres de stamina pour le monstre, où c'est montré par sa respiration ou sa bave, qui du coup dit soit il est essoufflé, soit qu'il a faim le monstre et que, du coup il va aller manger, comme disait Jet tout à l'heure. Il y a beaucoup de petites trucs comme ça du coup qui sont encore un peu cachées du coup, mais il y a beaucoup d'autres choses que j'avais découvert qu'au bout de 15 heures de jeu, par exemple sur Monster Hunter Freedom Unite, et ben là, au bout de 20 minutes de jeu, tous ces trucs là, bah, dans Monster Hunter 4, il s'est tout de suite montré du doigt. Il y a, ah bah, tiens, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Il y avait des choses que je savais pas du tout avant. Il s'est tout de suite montré dans le cadre dès le début. Ça, c'est super bien fait.
Donc, un
c'est
tuto très... beaucoup mieux fait, de ce côté là.
Pas forcément un tuto, mais c'est beaucoup mieux présenté. C'est D'accord. beaucoup plus accueillant pour un joueur novice, quelqu'un qui découvre Monster Hunter, c'est obligé. Moi, je veux dire, je conseille le 4 directement pour quelqu'un qui veut découvrir la série. Allez jouer au 4, de toute façon tout le monde est dessus. Il y aura plus personne sur les autres. Peut-être moi sur le 3.
Mais j'ai juste enchaîné du coup avec la question de The 4 qui demande. J'ai pas trop aimé Monster Hunter 3 Ultimate. Oui. Est-ce que le 4 vaut le coup? Est-ce que je tente le coup? Est-ce qu'au contraire, bah voilà, c'est l'essence de la série. Je peux pas coller.
Justement, moi je dirais justement de tenter le coup, car je pense que du coup il y a plein de choses qu'il a dû passer à côté et que là du coup comme je disais tout à l'heure, c'est montré du doigt tout de suite. Mais il y a également plein de petites choses aussi, de petits ajouts qui sont faits à ajouter dans le hub central, que ce soit le village ou la grande salle. Il y a plein de choses qui sont rajoutées qui sont bien sympa, bien pensé. Genre par exemple un truc tout bête, lorsqu'on commence une quête, on a pris une quête avant d'aller partir en quête, si t'as oublié quelque chose, si t'as oublié de prendre un objet dans le coffre, dans l'exemple du 3, si t'as oublié quelque chose à prendre dans le coffre, genre une potion, des bombes, des tranquillisants, tout ça, t'es obligé d'annuler la quête, de partir chez toi, prendre ce qu'il faut et reprendre la quête et partir. Alors que dans le 4, justement, juste avant de partir en quête, t'as un petit coffre juste à gauche qui est relié justement au coffre de la maison, qui permet justement de se prendre les objets dont tu as besoin avant de partir en quête. Et le jeu est plein de petites choses comme ça qui vraiment rend la chose beaucoup plus fluide, beaucoup plus accueillante, comme je disais. C'est vraiment un jeu qu'il faut essayer. Vraiment, le 4, c'est vraiment le jeu que je conseille.
Alors, deux questions de Chichi rapidement. Est-ce qu'ils ont appris à faire une ergonomie cette fois, demande Chichi? Autrement dit, est-ce que le second stick apporte quelque chose de suffisamment bon, ou est-ce qu'il faut plutôt attendre une version console de salon qui pourrait arriver? On s'y attend, en tout cas, vu l'historique de la série, généralement, les deux sont rattachés.
Là-dessus, j'avais vu pas mal de rumeurs comme quoi une version Wii U du 4 Ultimate qui allait venir, mais
ça semble logique. Si quand on regarde les ressortir, ça semble logique, pour faire simple.
Mais perso, j'y crois pas trop quand je vois la com qui a été faite sur la New 3DS qui la vend vraiment comme mot pour mot le confort d'une console de salon. Déjà de base, du coup, donc la console est assez confortable en soi. Et
après, ils vont forcément faire cette communication là parce qu'ils sortent un second stick, qui était un truc que les joueurs attendaient justement beaucoup depuis comparé aux consoles de salon. Forcément, la communication de la New 3DS va être axée sur ce genre d'argument.
Non, mais on s'en fout parce qu'on peut y jouer aux chiottes dans les transports et ça, bon bah voilà, ça a
mais
pas
oui,
pris quoi.
Mais oui, Monster Hunter partout, c'est trop bien.
Très bien, très bien. Et alors, une question, c'est facile, je dirigeais plus du côté de Jay qui suit vraiment la série depuis très longtemps. Quid maintenant du futur de Monster Hunter qui semble arriver au maximum de la formule classique?
J'ai pas l'impression qu'ils vont changer quoi que ce soit. Là, juste deux trois choses qui n'ont pas été dites sur le 4 par rapport aux anciens. Déjà, ils ont rajouté un truc totalement génial qui est la verticalité.
Monter les monstres.
Tu pouvais grimper aux falaises, etc. à certains endroits, mais en fait, ça ne servait pas dans le combat. Maintenant, ça sert dans le combat. C'est-à-dire qu'en plein combat, et le 4 joue beaucoup là-dessus. T'as la possibilité de monter et t'as la possibilité même de sauter sur les monstres. Ils ont même rajouté une arme qui est très aérienne, on va dire là, l'insect glaive. Je sais pas comment ça s'appelle en français parce que malheureusement
l'insecto glaive.
Voilà, merci. Et qui est un truc qui permet plus ou moins de te la jouer kilik si tu veux au sol et qui non mais c'est vraiment ça et qui te permet de prendre une impulsion et de te propulser vers l'avant, tu vois, en l'air, et donc de tomber sur le corps du monstre. Mais t'as la possibilité de le faire avec toutes les armes, hein, c'est-à-dire en sautant d'un rebord. Si jamais t'as le monstre en dessous, tu peux tomber sur son dos, et à partir de ce moment-là, bah tu l'enchaînes, t'as une espèce de mini-jeu.
Espèce de QTE, faut le dire.
C'est pas vraiment un QTE, c'est il faut vraiment suivre le truc parce que t'as une tête de dragon qui devient rouge en fait quand il va gueuler ou quand il va vraiment se débattre.
Ah, alors il va vraiment secouer son dos pour le jarter.
Sachant que en fonction de la fatigue du monstre, parce que c'est quelque chose de très important dans le jeu, le monstre se fatigue, il n'y a pas de barre de vie, donc il faut observer encore une fois absolument toutes les réactions du monstre. Quand il commence à baver, ça veut dire qu'il commence à se fatiguer. Si jamais vraiment il rentre dans de la rage absolue, commence à se déplacer plus vite et commence à taper plus fort, ça veut dire que généralement t'es pas trop loin de la fin. C'est un peu le baroud d'honneur, on va dire, du monstre. Même il se déplace un moment plus lentement, tu vois que ses coups manquent de vigueur. Si jamais il peut envoyer des projectiles, il peut plus le faire. Donc voilà, il faut toujours surveiller un petit peu ce qui se passe au niveau du monstre pour savoir à peu près l'état dans lequel il est, quoi. C'est-à-dire à peu près sa jauge de vie invisible, entre guillemets.
Je vais faire une intervention un peu risquée, mais pour le coup, sur la verticalité, le fait de se mettre sur le monstre, d'essayer de le contrôler, ça m'a vaguement fait penser à Shadow of the Colossus, dans le principe de s'accrocher.
Oui, bien évidemment.
D'attaquer le point faible, etc. Voilà.
Oui, c'est un truc.
C'est la mythologie du chasseur aussi, hein, tout simplement.
Surtout que ça ajoutait quelque chose de nouveau dans Monster Hunter, ça faisait très longtemps que la série avait pas trop évolué. Ils ont essayé avec l'eau. Donc cette notion de verticalité, tu l'as retrouvée dans l'eau, mais c'était un peu chaotique, même si ça reste toujours plaisant d'aller dans les fonds marins, de devoir gérer ta fonction ta respiration, le fait de pas mourir de pas mourir noyé, mais c'était un peu chaotique à diriger tout ça. Il fallait vraiment beaucoup d'heures de beaucoup d'expérience pour réussir à bien nager et bien te déplacer dans l'eau. Donc c'est comme ils ont vu que ça a pas fonctionné, ils ont rajouté le truc mais sur terre.
Ça et les harpons aussi, ça c'était l'horreur dans l'eau.
Ah ouais, les harpons, putain, ça c'était l'horreur.
on va y passer 30 secondes, mais il est aussi sorti des jeux qui s'appellent Monster Hunter Frontier, globalement, qui sont notamment sortis, sur PC, Xbox 360.
Attends, on n'a pas fini Monster 4 Ultimate.
Oh mon dieu. Mais on va courir après le temps si tu veux. Vas-y.
Très rapidement, c'est le premier déjà qui t'amène pas dans un hub. Enfin, c'est important de le dire. C'est-à-dire que la notion de narration, c'est vraiment que t'as une histoire à suivre et tu vas d'île en île. Il y a plusieurs îles. Plusieurs îles ou plusieurs villages. Et en fait, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire, il y a un monstre qui les fait chier, dans un village A. Il faut aller tuer le monstre en question pour que le village puisse redémarrer. L'exemple typique, je sais plus son nom, mais t'as un village qui se trouve dans une sorte de volcan. Et en gros, c'est une forge qui est tenue par des nains. Et il faut aller tuer une araignée qui les empêche, en gros, de descendre pour continuer de faire leur taf. Et une fois que tu as tué l'araignée en question, t'as le feu qui peut revenir, donc ils peuvent redémarrer leur forge, ce qui t'amène à changer ton moyen de transport, parce que il y a un côté très nomade comme ça Monster Hunter 4 qui n'existait pas avant, enfin pas vraiment, c'était un peu plus suggéré, on va dire. C'est-à-dire que tu partais du même hub, mais tu te retrouvais dans différents environnements. Là, les environnements sont suivis d'une certaine manière par les villages. Il y a un nouveau truc aussi qui s'appelle l'exploration, qui fait écho aux zones libres, ce qu'on appelait la zone libre avant, donc c'est-à-dire de partir dans une zone et d'y rester X temps si tu voulais pour aller chercher des ressources ou pour pouvoir affronter des monstres qui te donnaient des loots plus intéressants. Là, l'exploration, tu te retrouves dans une forêt aléatoire, donc c'est-à-dire qu'il se reconstruit à chaque fois que tu mets les pieds dedans, et grosso modo, t'as des cycles avec les monstres qui vont se pointer à un moment spécifique, etc., et qui t'apportent des loots beaucoup plus intéressants. Donc ça te permet une progression plus rapide dans le jeu, qui te permet donc d'obtenir de meilleures armures tout de suite. T'as un mode tutoriel qui t'apprend à vraiment manier les armes, ce qui n'existait pas avant. Bref, ils ont quand même améliorer un certain nombre de choses de façon à ce que Monster Hunter 4 Ultimate soit joué par le plus de gens possible.
Ça, et sur l'expédition, il y a aussi le fait que l'écosystème aussi change aussi à chaque passage, ce qui fait qu'on peut tomber sur des monstres beaucoup plus différents que dans le 3 ou dans le village Moga, il y avait quoi, le Ludros, Grand Jaggi, Ratian et puis basta. Et là, il y a beaucoup plus grande variété dans les monstres rencontrés en expédition, et ça fait vraiment plaisir.
Très bien. Monster Hunter 4, plié si vous le voulez bien. On va juste dire deux mots. Je sais, j'ai vu les gens sur Twitter s'énerver, dire vous avez pas parlé de ces merdes quand même, etc. Il faut juste qu'on dise pourquoi. Ce sont apparemment des jeux de merde. Les Frontier. Bah, pourquoi est-ce que ce sont des daubes?
Bah, tout simplement que c'est il y a pas plus minorité que minorité, c'est exclu Japon et c'était exclu quasiment que Xbox 360.
Oh
voilà. Donc
t'as dû intéresser 10 personnes.
C'était assez minoritaire. Et sauf que après il y a eu une ressortie PC qui était accessible via VPN pour les occidentaux hardcore qui voulaient absolument essayer.
Mm.
Par exemple.
D'accord, très bien. Donc c'est et au niveau du jeu, enfin j'ai plus retenu le pseudo de l'auditeur, mais quelqu'un qui parlait de ces jeux-là comme des daubes ou des sous-daubes en juste
sous-daubes
deux mots
coréennes,
pourquoi
Kudishi Shitune, tout à fait.
D'accord. Pourquoi sous-daubes? Est-ce que tu peux argumenter si t'es du même avis, hein?
Laissez la parole à Jay pour le coup.
À Jay, ouais.
Bah écoute, Frontier, voilà, c'est pas sorti du Japon, donc j'ai pas pu y jouer, point.
Merde.
Voilà.
D'accord. Fini. Eh bien, dans ce cas-là, on va laisser cette pensée à l'auditeur qui l'a formulée. Très
et
bien.
Juste un autre truc encore plus OZEF.
Ouais. Toujours en spin-off,
Frontier G sur Vita. Voilà, c'est fini.
D'accord, mais oui, c'est bien ou c'est fini, c'est pas bien ou c'est fini, ça ne
veut
pas atteindre.
C'est plié, on peut passer à autre chose.
Ah d'accord, ok, tu voulais juste citer le titre pour nous dire c'est
juste citer le titre, voilà. Ce
il y
jeu
en a eu un
existe.
Sur Vita. Point. Très bien. On pense à lui. Dans ce cas-là, bah, à part justement ces petites surprises, ces petits spin-offs sortis sur d'autres consoles, malgré tout, Monster Hunter depuis 2010 voire même 2009, c'est aujourd'hui sur console Nintendo, Wii, 3DS et Wii U. Est-ce qu'on sait combien de temps va durer le deal?
Mais c'est pas vraiment un deal. Disons que le deal a vraiment été signé pour Tri, et après ils sont arrivés donc sur 3DS par rapport aux petits aménagements qu'ils ont fait. Mm-hmm. Ils se sont bien sentis sur 3DS parce qu'ils ont vu que ça cartonnait, voilà, point.
Donc c'est plus un accord tacite qu'un deal.
Oui, parce que sinon ils auraient jamais fait portable Third, tu vois, sur mm-hmm. PSP, donc voilà.
D'accord. Eh bien, c'est noté. Dans ce cas-là, on peut un petit peu avancer. Toujours quand même sur Nintendo, malgré tout, les consoles Nintendo ont la particularité, en ce qui concerne déjà ce qui concernait la Wii en son temps, mais aussi la Wii ou la 3DS, d'être pas nécessairement les consoles les plus puissantes sur le marché, aussi bien en termes de puissance brute, donc ça va avoir un impact sur simplement le genre de monde, d'univers, de niveau que la console peut gérer, et en même temps aussi sur les capacités online. Est-ce que ça s'est fait sentir? Est-ce que, bah voilà, à part le fait de oh là là, ma série préférée quitte ma console, je suis triste, est-ce que l'arrivée sur console Nintendo a réellement été un problème pour les joueurs de Monster Hunter?
Bah, au début, oui, c'est évident, mais après tout le monde a suivi et tout le monde a acheté une 3DS. Le nombre de joueurs de Monster Hunter qui jouaient sur PSP qui ont acheté une 3DS ensuite, laisse tomber quoi.
Mais au niveau de online sur Wii, c'était quand même potable parce que l'online de la Wii était quand même limite. Autant la Wii U, ça s'est amélioré, autant la Wii.
On peut même dire que c'était de la merde avec l'espèce de petit bidule pourri là, je sais plus ce que c'était.
Oui,
là,
alors le tri en fait,
il tirait parti du micro, du Wii Speak.
Exactement, il a
transité du
Wii Speak et le online était même
c'était
indépendant.
Un des trois jeux, hein.
Et le online était indépendant du Nintendo Wi-Fi. Du coup, c'était encore plus, beaucoup plus mis à part. Le netcode était encore plus moins bien fait. C'était vraiment.
Non mais voilà. C'est un essai foiré. Voilà, il faut le dire. C'est tout.
Le seul jeu qui a profité du Capcom Online, là, du même netcode que celui-là, c'était Sengoku Basara 3 Utage, sorti uniquement au Japon. Voilà. J'avais envie d'en parler de ce jeu que c'est qui est très très bon.
Alors, de manière générale, en quoi finalement est-ce que Monster Hunter a apporté quelque chose aux jeux vidéo? Parce que malgré tout, on entend que c'est une série voilà difficile d'approche, mais en même temps très riche. Qu'est-ce que cette série qui est apparue? On le rappelle, hein, c'est pas un Dragon Quest, c'est pas un Final Fantasy, c'est pas un extrêmement vieux du RPG. Le premier épisode, il date de 2004, il a entre guillemets seulement 11 ans. Qu'est-ce qui a apporté
déjà.
Quelle filiation finalement à Monster Hunter?
C'est tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, et puis c'est un jeu de chasse, donc voilà, et la chasse par définition, quand tu peux y jouer à 4, il y a vraiment le côté exploration, enfin le côté coopération, pardon, pour pouvoir mettre un monstre à terre. Donc chacun a son rôle, chacun a sa maîtrise d'une arme en particulier, et après c'est en fonction de comment tu interagis avec les autres pour pouvoir chasser le monstre. C'est ça qui est intéressant, et c'est justement par rapport au sursaut qu'il y a eu du online dans les dernières années, et notamment la multiplication de gameplay coopératif, que Monster Hunter a beaucoup apporté. Enfin, il a apporté, par exemple, à Dragon Dogma, qui est un peu le pendant solo, mais qui finalement va beaucoup plus s'inspirer de Monster Hunter que l'inverse. Monster oui. a pris le saut sur les monstres de Dragon Dogma.
Exactement.
Et Dragon Dogma Online, qui va arriver, qui sera exclusif au Japon encore une fois. Lui est clairement un Monster Hunter sur c'est juste histoire de pas le nommer, quoi, tu vois. Bon voilà, et qui sera jouable à 4 de la même manière. Par ailleurs, vu que ça a été un carton sur PSP puis sur 3DS, ça a donné beaucoup d'idées, donc il y a eu un grand nombre de Monster Hunter like. C'est carrément devenu, tu vois, un genre à part entière. C'est avec God Eater sur PSP, avec
le 2 sur Vita aussi.
Voilà, le Freedom Wars qui est sorti il y a pas très très longtemps.
Yes. Tokiden sur Koei.
Le Tokiden, voilà, exactement, qui sont des jeux comme ça qui ressemblent énormément à Monster Hunter, qui simplifient énormément l'expérience pour vraiment se concentrer sur l'action, et qui généralement sont un peu plus sexy. C'est-à-dire que au lieu de se retrouver grosso modo dans un contexte héroïque fantasy avec des grosses armures machin etc, tu te retrouves plus dans un truc dans un trip un peu SF un peu technologique, tu vois.
Ouais, plus Freedom Wars ou Soul Sacrifice aussi un peu plus aussi. Il y a aussi un autre hunting like un peu dans le genre sur Vita.
Ouais, et puis j'ai envie de te dire, ça a quand même beaucoup inspiré. Enfin, je veux dire, Evolve, ça reste quand même 4 chasseurs qui chassent un monstre, quoi. Bon voilà, alors je sais pas si un jour Monster Hunter passera le cap de te permettre de jouer les monstres, ce qui serait totalement génial d'ailleurs. Mais en tout cas voilà, c'est un peu la même réflexion, la manière aussi de découper un monde ouvert façon Monster Hunter est très japonaise, quoi, tu vois. Je veux dire, tu regardes FF15 ou même FF12 avant, on n'est pas très loin non plus. C'est-à-dire que oui, quand on se retrouve à chasser du mob, on est un peu dans cette même perspective. Donc Monster Hunter en fait a été un tel carton, et le seul vrai carton japonais de ces dernières années, la vraie grosse série japonaise, c'est celle-là avec Yo-Kai Watch, mais qui est lui très inspiré de Pokémon, qui s'est surtout appuyé sur tout un ensemble de produits dérivés, en particulier de séries télé, parce qu'il faut savoir que Monster Hunter, en dehors des jeux même, t'as un manga, mais t'as pas de série animée, quoi, tu vois, contrairement à Pokémon avant, ou contrairement à Yo-Kai Watch, donc en fait, ça s'appuie uniquement sur le jeu.
C'est un succès de jeux vidéo assez pur. C'est intéressant que tu fasses le lien avec Evolve, parce qu'Evolve, c'est le sujet du prochain Player Club la semaine prochaine, où on parlera notamment des polémiques autour de la sortie d'Evolve, la politique de l'éditeur, ce genre de choses. Dernière question par rapport à Monster Hunter avant de
attends,
terminer.
Il y a Laurent qui nous dit sur Twitter, oui. Final Fantasy Explorers. Exactement. Voilà, encore une fois, une série qui, pour un spin-off, s'est inspirée de Monster Hunter.
Ça et FF15 du coup.
Bah, on en parlait un peu tout à l'heure, mais ça c'est plus dans vaguement, tu vois, c'est un vague cousin. Alors que Explorers, c'est vraiment le même concept. C'est-à-dire, t'as un hub et tu dois aller chasser des monstres et des invocations, etc. Et puis tu peux y jouer à 4 en même temps.
Voilà.
D'ailleurs, à l'époque, le grand truc, c'était est-ce que FF9 se serait pas inspiré de Monster Hunter aussi? FF9, pardon, Dragon FF12. Quest 9. Dragon Quest 9 sur DS.
Très bien, on va rappeler juste un petit instant, c'était ma question de fin, vous en avez déjà un petit peu parlé pendant l'émission justement, pendant qu'on parlait de Monster Hunter 4, mais tout de même, pour quelqu'un qui n'a jamais osé tremper le pied dans la sauce Monster Hunter, par quel épisode faut-il... Il y a des choses qu'on ne peut pas forcément prévoir. Par quel épisode on peut commencer Monster Hunter? J'ai entendu par le 4. Globalement, c'est simplement parce que la formule, comment dire, a tout le temps amélioré. Voilà, c'est le dernier en date, au final. C'est juste pour ça.
C'est ça, et puis dans, tout simplement que vraiment bah c'est le mix-up parfait et que tout le monde va être dessus. C'est sur une seule console, c'est portable, il y a du online, faut jouer avec ses potes, c'est juste fantastique. Voilà, c'est le jeu avec jouer avec ses potes qui jouent aussi à Monster Hunter. C'est fantastique.
Malgré tout, il y a quand même le débat 3DS, New 3DS. Alors on va pas faire le pour et le contre de la machine.
Et ça sert à rien.
En tant que tel, mais est-ce que ça justifie, parce que c'est mine de rien ce que nous disent par exemple toutes les affiches dans le métro, est-ce que le soi-disant confort de console de salon que procurerait la New 3DS ou la New 3DS XL, plus la XL d'ailleurs par rapport à son format que la New simple, est-ce que ça justifie l'achat? Est-ce que ça justifie de débourser 150-200 euros dedans?
Alors là où Nintendo a été intelligent sur la New Nintendo 3DS et en particulier la XL, c'est que il y a le jeu solo qu'il fallait, c'est-à-dire Majora's Mask,
ouais.
Et il y a le jeu multi qu'il fallait, c'est-à-dire Monster Hunter. Et effectivement, je suis d'accord avec Mitsui, MH4 c'est vraiment le meilleur épisode de la série et c'est le plus pensé pour même accueillir le nouveau joueur, le néophyte. Donc si jamais il y a une console à acheter à l'heure actuelle, c'est une XL. J'imagine que tout le monde n'a pas de 3DS XL. Donc du coup, c'est l'occasion de prendre une New Nintendo 3DS XL avec Majora et avec Monster. Comme ça, t'as le jeu solo qui va bien et t'as le jeu multi qui va bien.
Bien, c'est effectivement assez stratégiquement malin, d'autant plus que la presse, même la presse généraliste, bien fait l'écho de Majora's Mask. Il suffit juste que Nintendo, pour le coup, mette l'accent dans sa communication, notamment la communication d'affichage sur Monster Hunter, et comme ça, les deux jeux étaient mis en avant.
Et d'ailleurs, la presse aussi, généraliste.
Le Monde, Pixel, pour le coup, je connais l'auteur de ce papier parce que c'est mon ami Concombe qui a fait le papier sur Monster Hunter.
Ah.
Mais le Pixel sur Le Monde, on a parlé notamment et. Bon, c'est leur boulot aussi de parler de jeux vidéo, mais...
Mais la presse JV a assez bien accueilli Monster Hunter 4 Ultimate, que j'ai lu sur IGN, ou sur JVC, ou sur Gamekult en général, sauf parce que Puyo, c'est un sac. Non, en soi, c'était assez bien accueilli. Hein.
Non, mais ça traduit surtout que voilà, Monster Hunter commence à devenir une marque forte en Europe, en Occident, que il y a eu beaucoup de travail qui a été fourni, notamment de la part de Nintendo, pour répandre le virus Monster Hunter, j'ai envie de te dire. Et à partir du moment où tu l'essayes à 4, de toute façon, il est immédiatement adopté. C'est le fait d'y jouer tout seul dans son coin, de se faire défoncer par des monstres qui sont trop forts, avec des problèmes de caméra, des problèmes de collision. Hein. Il faut pas dire que le jeu est parfait. Mais à partir du moment où tu joues à 4, tu t'amuses. Si jamais tu as des joueurs qui sont un peu chevronnés à côté de toi, ils vont t'apprendre. Et c'est comme ça que ça marche.
Très bien, merci à vous deux d'être venus parler de Monster Hunter ce soir. Je rappelle Mutsui qu'on peut te retrouver sur pixelspray.fr et qu'on peut te suivre sur Twitter @Mutsui avec 3i. Merci d'être venu.
Un plaisir aussi.
Et puis merci évidemment à mon ami Jay qui travaille dans l'industrie et qu'on entend dans les tauliers tous les mois. Les tauliers qu'on va d'ailleurs retrouver ce vendredi, on va parler, il faut que je révise mon sujet d'ailleurs parce que je suis un petit peu fatigué. Fox a proposé un super sujet dont on vous fera la communication très rapidement. Là je suis un petit peu entre 15 000 trucs donc c'est un peu difficile pour moi de vous dire. C'est un truc notamment sur... Non je vais pas dire de conneries donc je vais rien dire pour l'instant. Merci Jay d'être venu.
Ouais merci.
Je rame un petit peu, je sors les rames mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Et puis quant à moi je vous retrouve évidemment dans le Player Club la semaine prochaine. N'hésitez pas à suivre le compte Twitter @leplayerclub pour être au courant de ce qui se passe au niveau de l'émission. Allez voir aussi sur radiojv.com le Velvet Video Burger, le projet justement de Concombre Masqué qui est une sorte de let's play où toutes les deux semaines eh bien le même jeu est continué. Pour le coup c'est la série des Earthworm Jim mais les joueurs changent, donc cette semaine c'est notre ami Concombre qui a fait le premier épisode. Dans une semaine et demie ce sera Mathieu Gould, Ludographie Comparée, qui prendra le relais, les différents animateurs de Radio JV comme ça se tiendront la main à travers Earthworm Jim et auront chacun une demi-heure pour parler en jouant. Donc c'est une expérience finalement assez chouette qu'on vous propose sur radiojv.com. Et puis sinon, je n'ai plus qu'à vous dire que le Player Club, c'est une émission produite et réalisée par Radio JV. Rendez-vous lundi prochain en direct chez nos partenaires de Radio Synops Live pour donc un nouveau numéro qui sera consacré à Evolve. Fox sera notamment avec nous, on en causera des petites polémiques qu'il y a autour de ce titre. Et puis 24h sur 24, 2024 en streaming, téléchargement et podcast sur Radio JV qui produit le Player Club, radiojv.com. Mais Radio JV ne produit évidemment pas que le Player Club ou le Velvet Video Burger. Radio JV produit aussi Pass le Stick. Messieurs, bonsoir.
Bonsoir. Donc on va bientôt proposer Pass le Stick en DLC et en Season Pass, mais il n'y aura pas bien sûr tout le DLC dans le Season Pass, évidemment.
Alors si j'ai bien saisi, ce soir vous allez continuer de parler de Monster Hunter.
Ouais, c'est ça.
Continue. Ah oui, ce qu'ils ont parlé de Monster Hunter là.
On a fait une heure, n'est-ce pas?
Oui, c'est Monster Hunter.
Tu sais, tu l'avais lu. Oh là là.
Ouais, puis et bien oui. Joué, mais on sait pas trop. Mais on va voir. Mais ça,
d'accord.
Peut-être ça va être bien. Peut-être ça va pas être bien. On va pas le dire maintenant, sinon les gens vont pas rester.
Oh. Ouais. Vous avez des invités ce soir?
Oui. Oh. On a Vincent qui est donc rédacteur en chef.
Non. Jeux vidéo chez Pure Break.
Sur Pure Break, voilà.
Très bien. Et ben, vous souhaite une très bonne émission. Puis à très vite.
Merci beaucoup.
Ciao.